Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition d'Escale. 2008, année record pour les enfants et les conflits armés. Depuis que le rapport de Graça Machel sur les enfants et les conflits armés a exposé l'impact brutal et disproportionné des conflits armés sur les enfants devant l'Assemblée générale en 1996, les Nations unies se sont dotées d'un représentant spécial qui surveille et répertorie 6 violations contre les enfants dans les conflits armés dans un rapport annuel et cherche à les protéger. Selon le dernier rapport de la représentante spéciale des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés, en 2018, plus de 24 000 violations ont été constatées dans les 20 situations de conflits surveillées. Plus de 12 000 enfants ont été tués ou mutilés, alors que 13 600 ont été libérés des groupes armés. Pour mieux comprendre ce bilan mitigé, nous avons rejoint Virginia Gamba, actuelle représentante spéciale de l'ONU sur les enfants et les conflits armés.
Il y a deux choses. La première, c'est que des 6 violations graves que nous documentons, tout sont en train de baisser, pas de monter. La violation sexuelle, c'est la même quantité toutes les années, ça ne bouge pas. Mais oui, l'année dernière, c'était le plus gros chiffre des enfants tués, mutilés dans des conflits armés. Je pense que c'est parce qu'il y a des conflits nouveaux. Il y a aussi beaucoup de crises très prolongées dans les temps. Et il y a un grand effort de plusieurs des pays, en particulier des gouvernements et aussi de l'allié gouvernement, de se battre avec tout ce qu'il peut contre les groupes armés très violents, extrêmement violents. C'est important de reconnaître que l'année passée, il y avait beaucoup de groupes extrêmement violents comme Al-Shabaab en Somalie, Daesh en Syrie, mais aussi en Irak et Afghanistan. Et il y avait beaucoup d'opportunités pour que les groupes armés déroulent les processus démocratiques, comme ça passé avec les élections en Afghanistan l'année passée. Alors, entre tous les bouts de tous les acteurs, les chiffres montent de tuer et mutiler les enfants. Je vais dire une chose importante, que 40% de cette mutilation des enfants qui sont tués, ça, c'est à cause d'explosifs, c'est à cause de mines antipersonnelles, c'est parce qu'elles sont utilisées comme des tactiques explosives. Les enfants même sont forcés de se tuer avec ces explosifs. Et l'autre pourcentage très haut, c'est parce qu'il y a beaucoup de combats contre groupes extrêmement violents dans des situations urbaines, pas rurales. Et là, il y a des gouvernements qui font beaucoup de bombardements de ces groupes, même dans les moments où ils sont dans le milieu d'une ville.
Alors, parmi les tendances que vous avez constatées, quelle est celle qui vous inquiète le plus?
Pour moi, c'est les attaques à écoles et aux hôpitaux. Parce que là, c'est une chose vraiment une tactique de guerre des groupes armés de détruire l'éducation. Et je pense que les enfants et même les teenagers ne veulent pas aller à la guerre, mais ils n'ont pas d'une option. L'unique possibilité d'avoir quelque chose à manger et de faire quelque chose, c'est d'aller à la guerre. Parce qu'il n'y a pas d'écoles, il n'y a pas de centres de formation même vocationnels, alors il n'y a rien à faire. Mais pour moi, le groupe armé les connaît. Et c'est incroyable la quantité des écoles de filles qui sont entièrement détruites. Parce qu'on ne veut pas que les filles s'éduquent.
On vise les filles.
Oui, oui. Ça, c'est la violation que pour moi, c'est la plus grande à travers de toutes les situations que nous couvrons. En particulier, je pense que les pays où la plusieurs quantité d'écoles ont été détruites, c'est le Mali.
Et on a vu cette année, justement, une augmentation des attaques dans les écoles du centre du Mali.
Exactement, exactement, exactement. Déjà, les écoles du nord sont détruites. Maintenant, les écoles du centre commencent à être détruites. Et moi, je viens d'arriver de Mali. Je fais une visite Et j'ai dit très clairement au gouvernement et aussi à tous les acteurs internationaux et même au groupe armé que dans ces moments-là, c'est très important de prévenir toutes les violations dans les soutes, de contenir et arrêter les violations dans les centres et revertir les violations dans le nord. Mais c'est très important de commencer à prendre des protections à les écoles dans les soutes du pays parce que ce sont les leaks qui restent.
Pour prévenir en fait.
Oui.
Alors, vous avez quand même signalé en début d'interview qu'il y a des tendances positives. Tous les autres indicateurs sont à la baisse.
Oui, tous les autres indicateurs sont à la baisse. Et violence sexuelle, ça se maintient, on ne peut pas les bouger. Mais il y a un autre chiffre très important l'année passée. C'est l'année qu'on a le plus d'enfants qui sont relâchés des conflits armés. On a 13 600 enfants qui sont relâchés et séparés des conflits armés. C'est le plus grand chiffre qu'on a eu. Alors ici, je pense que la raison de cette énorme quantité d'enfants qui sont relâchés de la guerre, c'est parce qu'il y a beaucoup de dialogues et de processus de paix qui l'année passée ont commencé. À Yémen, en République centrafricaine, dans le Soudan du Sud, à Myanmar, Colombie, et même en Syrie, il y a le commencement d'un processus de dialogue. Et on a trouvé que toujours qu'on fait un dialogue, les groupes armés et le gouvernement, et c'est moins possible de recruter des enfants, et aussi ils ont la volonté de les laisser partir. Alors l'autre chose qu'on a fait toute l'année passée, c'est de faire beaucoup de plans d'action conjointes entre les Nations Unies, mon bureau, et les gens qui travaillent avec nous dans le terrain, et les groupes armés. Et on a réussi dans 3 cas de signer un accord de paix. Et dans tous les cas, les enfants sont relâchés, ils sont séparés des conflits. Et dans la République démocratique du Congo même, il y a 18 groupes armés avec qui on a parlé. Et si bien on n'a pas déjà les plans d'action avec ce groupe, il y avait un compromis, un commitment qu'ils ont fait de commencer à relancer des enfants. Il y a presque 3000 enfants qui sont séparés dans ce pays seul. Alors ça c'est une chose très importante. Et c'est aussi une des premières années qu'on a plus d'enfants séparés que d'enfants recrutés.
C'est des grandes avancées.
Oui.
C'est son homme là-bas, déguisé en soldat, sans espoir, ici-bas.
Qu'en est-il des dossiers qui ont été contentieux dans les années précédentes, tels la coalition d'Arabie Saoudite qui opère au Yémen ou encore Israël et Palestine?
Pour l'année passée, les cas les plus préoccupants pour nous, c'est tout à fait la Somalie. Parce que la Somalie, dans toutes les catégories de violations, on est en train de monter. Et ce pays seul, c'est comme 6 000 de les 24 000 violations qu'on a couvertes l'année passée. Il y a toujours de la presse, toujours des ONG historiques qui se préoccupent de la situation du Yémen, et la situation d'Israël et aussi dans la Syrie. Et ça sont beaucoup de situations politiques qui sont contentieuses dans tous les extraits des Nations Unies et aussi dans mon bureau. Mais je dois dire qu'avec le Yémen, on trouve une très grande différence entre la situation du Yémen du commencement de l'année passée jusqu'à juin et la situation du Yémen de juillet à décembre de l'année passée, parce que le processus de paix a commencé et aussi nous avons travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la coalition et le gouvernement du Yémen pour commencer à mettre en place des mesures pour mieux protéger les enfants. Et ça marche très bien. À ce moment, c'est en train de marcher très, très, très bien. C'est soutenu. Alors, j'ai beaucoup d'espérance que pour 2019, ça va avoir une différence très grande de l'année passée.
Et pour Israël et Palestine?
Pour Israël et Palestine, c'est très intéressant. C'est la première fois que le secrétaire général est si préoccupé qu'il m'a demandé de faire un examen de tous les numéros et tous les chiffres dans des cas. Il n'y a pas une discussion avec les enfants tués, qui sont comme 50, mais pour faire une étude vraie des chiffres qu'on a pour enfants blessés. Parce que dans notre mandat, les violations ont des noms très complexes. Le nom pour cette violation, c'est les tueurs et mutilation des enfants. Alors, mutilation, ça prend que c'est un effet permanent dans les enfants. Mais plus de la moitié de tous les chiffres de l'année passée sont par des effets grâce à la lacrymogène dans de grandes démonstrations de personnes, et y compris les enfants. Alors c'est intéressant de voir exactement quelle est la situation réelle et les effets dans les enfants et dans les adolescents là-bas. L'autre chose qu'il m'a demandé de faire un examen, c'est très préoccupant. Pour la première fois, on a vérifié le recrutement des enfants soldats par les Hamas. Très peu, mais il y a. Alors, il veut savoir quelle est la tendance, quel est le type de violation et comment on peut commencer à parler avec les deux côtés du conflit pour prévenir les violations dans les enfants, prévenir qu'ils sont mis en situation de précarité et de possibles blessures, mais aussi essayer de faire un plan d'action préventif avec les deux. Je pense qu'on a jusqu'à décembre pour voir les tendances et voir les chiffres. Et avec cette information, avec le nouvel annual report de l'année prochaine, le secrétaire général peut lister ou non lister ses acteurs. Mais maintenant, vraiment, c'est une situation très complexe qu'il mérite un examen plus profond cette année.
Finalement, que souhaitez-vous voir découler concrètement suite à la publication de ce rapport? À quoi appelez-vous?
Je voudrais voir que les États membres et aussi les groupes armés, ils comprennent que les violations contre les enfants, c'est si possible de les prévenir. Que si on n'essaye pas de prévenir ces violations, alors on est en train de tuer leur propre futur. L'unique chose que j'espère, c'est d'avoir plus de sensibilisation globale de comment prévenir les violations contre les enfants dans le premier cas, le second, comment protéger l'éducation de tous les enfants dans des situations de conflit armé, et comment récupérer les enfants qui ont été vraiment psychologiquement blessés par la guerre. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas même de staff qui est préparé pour lui donner les choses qu'ils ont besoin pour récupérer l'espoir et récupérer la possibilité d'une vie nouvelle. Et pour moi, c'est une chose très hypocrite des pays membres des Nations Unies quand ils disent que c'est horrible la guerre, que c'est épouvantable ce qui passe avec les enfants, mais personne n'est prêt de donner des ressources pour que les enfants puissent s'alphabétiser, pour que les enfants puissent avoir un travail honnête et que les filles soient préservées, parce qu'à ce moment-là, les filles ont un stigma si gros de la guerre et de les violations sexuelles que même les propres communautés ne vont pas la recevoir. Alors, si on peut sensibiliser la population mondiale et aussi le gouvernement, j'ai dit, si les pays qui font la guerre entre eux et entre leurs ennemis sont préparés de mettre beaucoup d'argent dans le processus de faire la guerre. Si seulement 5% de l'argent qui s'est mis pour la guerre s'est mis pour se battre pour les enfants et pas contre les autres, je pense qu'on peut changer le monde. Mais je ne comprends pas, si je vous dis les chiffres, les sommes d'argent qui ont mis seulement 12 millions, 13 millions de dollars global pour l'intégration des enfants, et combien de trillions, de billions, de trillions de dollars ont mis dans la guerre. C'est incroyable. Si on peut changer cette mentalité, je pense qu'on peut changer le monde.
Et c'est avec le plaidoyer de Virginia Gamba pour la protection des enfants dans les contextes de guerre que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de Nu Info, présenté cette semaine par Christina Silvero. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.